Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Sourat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie.
Bismillahirrahmanirrahim. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
Et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme qui était de ses partisans l'appela au secours contre son ennemi. Moussa lui donna un coup de poing qui l'acheva. Moussa dit « Cela est l'œuvre de Shaitan. C'est vraiment un ennemi, un égareur évident. » Il dit « Rabbi, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. » Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur. Ar-Rahim. Il dit « Rabbi, grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels. » Sourate Al-Qasas, ayah 14 à 17. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très contente de te retrouver pour la suite de notre récit Al-Qasas. Alors on reprend à la ayah 14. Donc là on change complètement de scène. Non seulement ce n'est plus seulement un changement de scène du point de vue géographique, on ne change pas de maison, on change carrément d'époque, d'année. Donc là, Moussa alayhi salam a gagné en année, a gagné en maturité, comme nous l'apprend cette ayah. Donc Allah parle de « balara ashuddahu », il parle d'atteindre sa « ashudda ».« Ashuddahu » ici, ça vient de la racine « shadada » qui signifie « affermir ». Et ici, Ashuddahu, on parle de la pleine force de l'âge, la force, la vigueur. Quand c'est un homme, on parle de virilité, la majorité. Donc il dit, walamma balara ashuddahu wastawa. Donc il parle à la fois d'atteindre Ashuddahu, donc sa pleine maturité, et aussi istawa ici, qui vient de la racine sawa, et qui signifie atteindre un développement parfait ou être achevé. Et ici, les Mufassiroun parlent du fait que Moussa alayhi salam a atteint un niveau de force physique qui était très important. Donc il était très fort physiquement, très fort mentalement, moralement, etc. C'est quelqu'un vraiment qui était complet dans son éducation. Et si tu remarques, et d'ailleurs tu as vu que je fais beaucoup de parallèles avec Sourate Yusuf, parce que les deux, subhanallah, ont énormément de similitudes et on ne peut pas s'empêcher en fait de ne pas comparer parce que Allah subhanahu wa ta'ala réemploie parfois les mêmes phrases en fait. C'est comme Asiya radiallahu anha wa alayha salam qui parle de faire de Moussa soit son fils, soit il va leur être utile. Exactement comme Al-Aziz a parlé à propos de Yusuf alayhi salam. Et ici encore, Allah, cette phrase-là qu'il dit, et quand il eut atteint sa pleine maturité, etc., jusqu'à la fin de la ayah, Eh bien, c'est exactement la même que quand il parle de Youssouf, lorsqu'il a grandi dans la maison d'Al-Aziz, il parle de lui exactement de la même façon. C'est exactement la même ayah, sauf, il y a un seul mot qui change, qui est en plus, si tu as remarqué, c'est le mot istawa. Donc quand il parle de Youssouf alayhi salam, il dit وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. C'est exactement la même. Il dit, et quand il eut atteint sa maturité, nous lui donnâmes, donc حُكْمًا وَعِلْمًا, donc on va traduire ça, et c'est ainsi que nous récompensons al-muhsinin, les bienfaisants. Avec le cas de Moussa alayhi salam, il rajoute un mot, istawa. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit exactement la même chose à une nuance près, c'est parce qu'il veut qu'on remarque, et c'est parce qu'il veut rajouter un détail qui va nous aider pour comprendre la suite. Et ici, Allah voulait mettre en évidence la force physique de Moussa alayhi salam qui est hors pair et qui va jouer un rôle crucial dans son histoire de vie, tu vas le voir. Et rappelle-toi, Al-Qasas est là pour nous donner des détails précis, d'accord ? Si tu te rappelles de la racine de Qasas, on aura des détails, genre uniquement ceux dont on a besoin pour les leçons qu'on doit appliquer dans notre vie et qui sont dans cette sourate. D'un autre côté aussi, si on compare les deux, Youssouf alayhi salam a grandi dans un palais, comme Moussa alayhi salam aussi. Donc Youssouf alayhi salam c'était dans celui d'Al-Aziz, Moussa alayhi salam c'était dans celui de Pharaon. Sauf que Youssouf alayhi salam, dans la maison dans laquelle il a grandi, le palais dans lequel il a grandi avec Al-Aziz, là-bas, il était un servant. Il était utile, effectivement, mais on comprend que dans le comportement, en tout cas, des gens de la maison, surtout la femme d'Al-Aziz, on a compris qu'elle, entre les deux options que son mari lui a exposées, il lui a dit « Asa an yanfa'na aw nattakhidahu walada ». Donc, il pourrait nous être utile ou il est suffisamment bien, beau, intelligent, etc. pour que nous en fassions un fils. La suite de l'histoire, nous, on a très bien compris que la femme d'Al-Aziz, elle n'en a pas fait un fils de Youssouf, vu qu'elle a cherché à le séduire et on connaît la suite de l'histoire. Donc, elle ne l'a clairement pas pris comme un fils. Elle a plutôt pris, là, entre guillemets, la première option. Il peut nous être utile, d'accord ? Donc, par rapport à son travail dans la maison, etc. et tout, ses compétences. En tout cas, il n'était pas considéré comme un fils, à la différence de Moussa alayhi salam. Donc, Youssouf alayhi salam, lui, a également atteint une maturité, il a appris dans cette maison. Mais on peut dire qu'il s'est auto-éduqué, il s'est éduqué seul. Il a appris des discussions pendant qu'il servait les gens. Al-Aziz, c'était un politicien. Du coup, il recevait des ministres des fois chez lui, ils avaient des discussions politiques, géopolitiques, gouvernementales, etc. Donc, dans la maison, il a appris plein de choses sur les relations humaines, il a appris beaucoup de choses sur la politique, il a appris beaucoup de choses sur les êtres humains, ce qu'ils sont capables de faire, le pouvoir, la corruption. Il a appris beaucoup de choses dedans. Et il avait en plus, il est venu avec le bagage de son père, Yaqub alayhi salam, qui est un prophète, qui avait énormément de science, qui lui a appris beaucoup de choses. Donc, Youssouf alayhi salam, c'est comme ça qu'il s'est éduqué. Donc, il a atteint une maturité, mais en s'auto-éduquant, avec l'aide d'Allah. Alors que Moussa alayhi salam, quand il est arrivé dans le palais de Pharaon, c'était pas un grand garçon comme Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam, quand il est arrivé, il n'était pas bébé, d'accord ? Donc, il n'a pas commencé son éducation là-bas. Il l'a commencé auprès de son père, Yaqub alayhi salam. Moussa alayhi salam, lui, il a été élevé comme un fils. Parce que là, si tu reprends la proposition de Asiya alayhi salam, quand elle parle à Pharaon, elle dit il peut nous être utile ou on peut le prendre comme un fils. Sauf qu'elle, elle a déjà montré que, on a très bien compris que c'est un fils qu'elle voit en Moussa alayhi salam. Elle l'a élevé comme son fils, elle qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle, en fait, qui l'a vu tout de suite comme Qurratu Aini. Donc, la tranquillité de ses yeux, de son cœur, sa réjouissance, en fait. Donc, elle l'a considéré et élevé comme un fils. Donc, tu vois, le contexte est très important parce que, du coup, les enjeux ne sont pas les mêmes. Dans le cas de Moussa alayhi salam, comme il est considéré comme un fils, celui en plus de la première dame d'Égypte, donc pas n'importe qui, alayhi salam, eh bien il a eu une éducation de prince. On lui a appris les codes, l'étiquette, une éducation éthique. Il a reçu aussi des enseignements en termes de politique. Il connaît pas mal de choses sur les relations humaines, diplomatiques, les classes sociales. Il a appris beaucoup de choses sûrement sur la littérature, le sport, la santé, etc. Donc il a eu une éducation très, très poussée. L'éducation qu'on donne aux gens haut placés. Donc, c'est pas la même chose. Et en plus de ça, il était éduqué en plus par une grande dame. Et il avait aussi, en même temps, sa propre mère aussi. Donc, Moussa alayhi salam a bénéficié d'un, on va dire, un atmosphère encore plus complet que Youssouf alayhi salam. Donc, pour cette nuance-là, et par rapport aussi à sa force physique, comme le dit le tafsir, quand Allah parle de istawa, donc c'est vraiment istawa, c'est vraiment quelqu'un qui s'élance, qui est fort physiquement, qui est bien solide et qu'on peut pas briser quoi. On parle beaucoup de la force physique quand on parle de istawa. Donc ça c'est une nuance par rapport à Youssouf alayhi salam qu'Allah a voulu mettre en lumière ici et parce que ça va nous être utile aussi pour la suite de l'histoire. Et dans les deux cas, que ce soit pour Youssouf alayhi salam que pour Moussa alayhi salam, Allah parle de ce qu'il leur a donné quand ils ont atteint ce niveau-là. Il dit « hukman wa ilma ». Donc pour rappel, quand on dit « hukm », c'est traduit souvent par « sagesse », mais c'est plus loin que ça. « Hakama », c'est le fait de juger, de trancher, c'est aussi de la sagesse, mais c'est littéralement le fait de savoir faire la part des choses, la capacité à savoir prendre les bonnes décisions et à contrôler les conséquences. C'est ça « hakama ». Donc Allah lui a donné ça, comme il l'a donné à Youssouf alayhi salam auparavant. Et il leur a en plus donné la science, « ilman », une science. Et l'ordre des mots est très important, comme je l'avais dit dans les épisodes sur Surat Youssouf. D'ailleurs, je fais un parallèle parce que ceux qui suivent le podcast sur YouTube me disent souvent « mais on ne trouve pas en fait la série Youssouf ». Mais en fait, à l'époque, quand le podcast est sorti, ça se transmettait pas tout de suite sur YouTube en fait. C'était que dans les autres plateformes. Donc du coup, si vous voulez le trouver, il sera soit sur Apple Podcast, Spotify, etc. et toutes les autres plateformes. Et il n'est pas sur YouTube. Peut-être après Ramadan, Inch'Allah, je posterai les épisodes de la série Youssouf, le plus beau des récits, dans le podcast, sur YouTube. Mais en attendant, vous pouvez le retrouver dans les autres plateformes. Voilà, c'est un aparté parce qu'on pose souvent la question et chaque fois, j'oublie de répondre. Donc, je reprends. L'ordre des choses est très important. Donc, Allah parle de « hukm » puis « ilm ». On aurait tendance à se dire qu'il faut d'abord la science pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il faut de la science pour pouvoir trancher, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est juste ou pas, faire la part des choses. Sauf qu'Allah, en parlant de d'abord la capacité de savoir prendre les bonnes décisions, faire la part des choses avant la science, le fait d'acquérir la science, c'est pour nous montrer, parce que là, il parle de deux personnes qui sont jeunes et qui ont grandi, mais qui sont encore dans un âge, voilà, l'âge de la... Ce sont des jeunes adultes, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce sont des jeunes adultes. Eh bien, en insistant, en fait, par rapport à cet ordre-là, Allah est en train de nous dire que dans leur cas, que ce soit pour Youssouf alayhi salam, que pour Moussa alayhi salam, acquérir ce hukm était plus important dans un premier temps que d'acquérir la science. Et ça nous apprend, en fait, que le plus important, ce n'est pas d'acquérir, d'accumuler de la science, mais c'est plus d'avoir de la sagesse, la capacité peut-être de prendre les bonnes décisions, faire la part des choses, c'est bien plus important pour quelqu'un de jeune, d'accord, pour un jeune adulte, comme beaucoup dans notre communauté, que d'acquérir et d'accumuler de la science. Et la science aussi est importante pour qu'on prenne les décisions correctement. Et enfin, par rapport à cette ayah, si tu te rappelles pour Youssouf alayhi salam, quand Allah a dit ça, donc quand il a parlé du fait qu'il ait atteint la maturité, qu'il lui a donné « hukman wa ilma » et que c'est ainsi qu'on récompense « al-muhsinin » les bienfaisants, ça aussi c'est un appel pour nous dire que celui qui fait l'effort d'apprendre à se maîtriser, qui fait l'effort d'apprendre la science, eh bien peut s'inscrire dans la bienfaisance comme Allah l'a accordé à ces deux illustres personnes. Et on a compris, en tout cas on se rappelle que pour Youssouf alayhi salam, après cette ayah-là, eh bien, Youssouf alayhi salam a été éprouvé avec la femme d'Al-Aziz qui a essayé de le séduire. Et tout ce qui en est suivi, la prison, etc., il a vraiment traversé des périodes difficiles par rapport à ça. Et donc, on peut s'attendre à la même chose pour Moussa alayhi salam. Passons à la ayah suivante, ayah 15, où là, Moussa alayhi salam marche dans la ville. Donc, il entre dans la ville à un moment d'inattention. Il trouve deux hommes qui se battent, qui se disputent, égal à égal. Et donc, l'un est parmi ses partisans, l'autre jusqu'à la fin de la ayah. Et là, j'ai envie de dire, on avait raison de penser que Moussa alayhi salam va être éprouvé parce qu'il fait face à son premier grand défi depuis le début de la sourate, en tout cas en tant que personne, en tant qu'adulte. Et donc là, cette ayah nous dit que Moussa alayhi salam arrive, donc il dit « ala hini raflati min ahliha ». Donc il arrive dans la ville. Très important, Allah parle de Medina, donc une ville quand il parle de ce type de ville-là, c'est vraiment là où c'est le centre, en fait, où il y a tout le monde. Vraiment, si tu prends une ville, c'est vraiment là. C'est comme Paris, en fait. C'est là où il y a plein d'activités. C'est le centre-ville, quoi. Voilà. C'est vraiment le centre-ville. Là où voilà, il y a des activités, les gens se réunissent, il y a de la vie en tout cas, il y a du trafic dans cette ville-là. Et donc Moussa alayhi salam, Allah précise qu'il y va, il va en pleine ville, d'accord, alors que le palais est plutôt en retrait. Le palais, il est pas voilà, le palais, c'est pas là où les gens ils vont au marché, etc. On trouve pas le palais à côté du marché. Donc Moussa alayhi salam, il va dans la ville là où il y a les gens. Il quitte le palais, d'accord. Donc le palais est de l'autre côté là-bas, et lui, sur son temps libre, il choisit spécifiquement un moment où il n'y a pas de trafic. Donc le moment où les gens sont au repos. Donc là, il y a plusieurs narrations par rapport à ça. Soit c'était très 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 tôt le matin, soit c'était à une période entre voilà, l'après-midi, début d'après-midi, où il fait très chaud, personne n'est dehors, etc. Mais vraiment, c'était un moment où c'était désert. Il n'y avait vraiment pas de trafic. D'accord ? Et Moussa alayhi salam avait l'habitude de parcourir comme ça le centre-ville à un moment où il n'y avait personne. Et il y allait vraiment très discrètement. Voilà, faut imaginer comme s'il portait une cape et tout, il se couvrait. Il voulait vraiment y aller incognito et être anonyme, qu'on le reconnaisse pas comme un prince en tout cas. Et donc, il aimait sillonner comme ça pour prendre la température, voir qui avait besoin, aider les gens de son peuple. Hein. Donc, il était très touché, comme sa mère adoptive Asia, alayha salam, qui était très au fait et très préoccupée par ce qui se passait dans le peuple et tout. Et donc lui, c'était pareil en fait. Et en plus, il sait que c'est les gens de son peuple en fait. Il connaît très bien son identité, son origine, sa culture, sa religion. Et donc, il se souciait du sort de Banu Israël et il allait régulièrement voir comment ils étaient, comment ça allait. Et quand il pouvait aider, il le faisait. Donc il ne se reposait pas comme des princes le font sur du temps libre. Voilà, ils jouent, ils s'amusent. Ils font des sports, ils font des réunions mondaines, des fêtes, etc. Bah non, lui, quand il avait du temps libre, il allait aider les gens. Et donc là, dans une rue déserte, il arrive, il trouve une scène, deux personnes qui se battent. C'est très important de voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « yaqtatilan » qui se battaient. Là, il ne parle pas de un. S'il avait parlé en fait de l'Égyptien copte qui brutalisait ou bien qui torturait celui de Banu Israël, eh bien, il y aurait plutôt l'autre essai de le tuer, quoi. Mais là, il dit « yaqtatilan », c'est-à-dire là, ici, Allah les met d'égal à égal. C'est deux hommes qui se disputent. Il se trouve que un est un Égyptien copte et l'autre fait partie de Banu Israël. Et regarde, il y a un mot qui revient, qu'on connaissait, le mot « shi'ara », qui est le singulier de « shi'ara », quand Allah parlait de « Firaun » qui divisait les gens en « shi'ara », d'accord ? Donc, il divisait les gens en tribu, on va dire en partie, en groupe. Ici, Allah reprend le même terme en disant hadha min shi'atihi wa hadha min adouhi. Donc l'un fait partie de sa shi'a, donc était un partisan de Moussa alayhi salam, dans le sens c'est son co-religionnaire, il est aussi de sa culture ethnique. Et l'autre fait partie de idi adouhi, donc fait partie de la culture, de la shi'a de son ennemi, donc de la même shi'a que Firaun, d'accord ? Le fait qu'Allah précise à quel shi'a appartient Moussa alayhi salam, je trouve, est fascinant. Parce qu'à choisir, on aurait pu attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala associe Moussa alayhi salam plutôt aux Égyptiens. Parce qu'il a grandi parmi eux, il mange comme eux, il a été éduqué dans un palais où il y a des Égyptiens. Il a clairement pas grandi au milieu de Banu Israël, il n'a pas eu le même traitement qu'eux, les mêmes tortures qu'eux, il a été élevé parmi les hauts placés, en plus, parmi les Égyptiens. Tous les Égyptiens ne sont pas aisés, d'accord ? Mais lui, il a été élevé parmi les Égyptiens, il est plus aisé parmi eux. Mais Moussa alayhi salam, et c'est très important, ici Allah nous a dit dans cette sourate qu'il allait parler bilhaq, avec exactitude, et dire la réalité des choses sans rien laisser comme doute ou quoi que ce soit. Et donc, Moussa alayhi salam ne partage pas leur idée, il ne partage pas leur pensée, il ne partage certainement pas la même origine et la même religion que les Égyptiens coptes, d'accord ? Donc, en précisant ça, peut-être qu'Allah voulait qu'on comprenne que les Égyptiens coptes non plus ne considéraient pas Moussa alayhi salam comme un des leurs. Ils le voyaient juste comme quelqu'un qui avait la protection diplomatique de Firaun et la protection maternelle et aussi diplomatique de sa femme, Asiya alayhi salam. Et on a compris que pour Asiya, d'accord, Moussa alayhi salam, c'est on ne touche pas, c'est vraiment pas touche, c'est mon fils, laissez-le. Donc il avait vraiment une grande protection. Donc qui pouvait quelque chose contre lui? Mais ça ne veut pas dire que les gens n'avaient pas de mesbas, ça ne veut pas dire que les Égyptiens le portaient dans leur cœur, ça ne veut pas dire que justement ils le détestaient pas. Peut-être qu'ils avaient une dent contre lui. Ils vont éternellement le regarder en fait comme ce fils d'Israël, donc de Banu Israël, qui a réussi à s'échapper, qui a gagné les faveurs de Pharaon, qui a gagné le cœur de la première dame, et on n'y peut rien, ça nous énerve un petit peu, mais tout le monde était au courant en fait. En tout cas, les Égyptiens savent que Moussa alayhi salam, c'était pas un scoop en fait. Les gens savent que Moussa alayhi salam est un fils de Banu Israël, qui n'est pas égyptien d'origine, d'accord ? Moussa alayhi salam, parce qu'il est connu aussi, c'est un prince, etc. C'est pour ça que quand il sillonne la ville aussi, il y va discrètement, il y va à un moment donné où il n'y a pas de, beaucoup de trafic, et il y va en se dissimulant, d'accord ? Donc de cette façon, ni le copte égyptien, ni cet homme de Banu Israël ne pouvaient savoir qui il était. Et de la même façon, donc cette info elle est très importante hein, par rapport au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle en fait de à qui appartient Moussa alayhi salam. Et bien de la même façon, les gens de son peuple, Banu Israël, quand ils entendaient parler de Moussa ou le croisaient, en tout cas arrivaient à voir qui il était, ils devaient aussi avoir l'impression, quand ils le voient, même s'ils ne savent pas son nom ou son prénom, juste avec ses traits physiques, etc., ils pouvaient deviner que c'était quelqu'un de chez nous. Parce que les traits d'un peuple ou d'une ethnie se reconnaissent les uns les autres. D'ailleurs, j'ai trouvé intéressant de te partager une parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc notre prophète nous a donné une belle description de son frère, d'avant, Moussa alayhi salam. Sur le plan moral, Abu Huraira, radiallahu anhu, nous relate que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Moussa était un homme timide et pudique. Du fait de sa pudeur, on ne voyait quasiment rien apparaître de sa peau. J'ai trouvé très intéressant d'avoir ce détail-là, et ça va nous aider aussi par la suite. Et sur le plan physique, c'est Ibn Abbas, donc le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Ibn Abbas, très haut niveau, mashallah, au niveau des hadiths et au niveau de l'exégèse du Coran, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le temps où il était monté aux cieux, quand il avait fait le voyage nocturne, et donc il a croisé Moussa dans les sept cieux, et c'est à cette occasion-là quand il a reçu la prescription de la prière, il avait croisé Moussa alayhi salam, et c'est lui qui lui avait dit « Retourne voir ton Rab, les gens ne prieront pas, ne feront pas 50 prières. » Donc on savait que c'était 50 prières, et chaque fois, Rasulallah retournait vers Allah, qui diminuait, jusqu'à arriver à 5. C'est pour ça que lorsque nous faisons nos 5 prières, nous avons la récompense de 50, parce que c'était à la base 50 prières. Ça, c'est bien de le rappeler aussi. Et donc, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Moussa était noir de peau, et il était géant, aux cheveux crépus, comme s'il était de la tribu de Shanoua. » Et Shanoua, c'était une tribu arabe noire d'Arabie. C'est le hadith 239 que tu trouveras dans Sahih Muslim. J'ai trouvé ça très intéressant de mentionner ça aussi parce que ça va nous aider à la suite. La couleur de peau du prophète Moussa alayhi salam, c'est un hadith authentique, va nous aider parmi les miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné quand il va retourner voir Pharaon plus tard. D'accord ? Je spoile pas, mais c'est intéressant d'avoir ça en tête. Et d'ailleurs, il y a pas mal de hadiths où Rasulullah sallallahu alayhi salam décrit physiquement des prophètes avant lui. Par exemple, quand il parle de Ibrahim alayhi salam, eh bien pour le décrire, il dit que de toute sa descendance, je suis celui qui lui ressemble le plus. Donc il dit que il est celui qui ressemble le plus à son grand-père Ibrahim alayhi salam. Il décrit aussi Isa alayhi salam, donc le fils de Maryam alayhi salam, comme étant un peu rougeau. Donc il disait rougeau, donc il tirait un peu vers le rouge, c'était quelqu'un qui avait le teint un peu comme quelqu'un qui rougit quoi. Il disait comme s'il venait de sortir du bain. Donc d'un hammam chaud, d'accord ? Donc il y a pas mal de prophètes comme ça qu'il décrit. Et Moussa alayhi salam, donc il le décrit par rapport à sa peau. Et la version en arabe, en fait, est très intéressante parce qu'on apprend ici quelque chose que j'avais déjà dit aussi dans un podcast. Quand il parle de Moussa alayhi salam, pour sa couleur de peau, il dit Moussa ibn Imran, donc son père s'appelait Imran, alayhi salam, rajulun Adam, donc Adamun, donc Adam ici, c'est pas le prénom Adam. Adam ici veut dire noir, brun, foncé. Donc si tu ne le savais pas, Adam veut dire celui dont la couleur de peau, son teint, tire vers le brun foncé. Donc là aussi, c'est très intéressant de revenir à l'origine. Adam alayhi salam était foncé de peau. Le premier homme, papa Adam alayhi salam, était très foncé de peau. Et c'est pas étonnant parce qu'il a été créé par Allah à partir d'argile, de poignées d'argile de couleurs différentes. Et il suffit juste de regarder la physique, d'accord ? Tous ses enfants, en fait, finalement, avaient des teints différents et ils se sont répartis sur la terre. Et aujourd'hui, je pense que au niveau des teintes, on a de tout, hein, d'accord ? C'est pour ça que quand je parle de la couleur de peau de quelqu'un, j'aime bien dire que c'est une teinte d'argile parmi tant d'autres, d'accord ? Et donc, au niveau physique, chimie, c'est très logique, en fait, que le premier homme soit foncé. Parce que comment on peut créer des couleurs différentes en partant d'une couleur claire ? À partir du blanc, c'est un peu compliqué de créer plusieurs couleurs. Alors que quand tu pars en fait d'une couleur foncée, en la diluant en fait avec une autre couleur, eh bien tu as plein de teintes, d'accord ? Donc c'est tout à fait logique qu'avec tout le mélange en fait de ces argiles-là, il y ait une couleur foncée. Et au fur et à mesure des générations, il y en a qui vont garder le teint foncé, il y en a qui vont être plus clairs, il y en a qui vont tirer vers le rouge, il y en a qui vont tirer vers le jaune, il y en a qui vont tirer vers autre chose. Et c'est trop beau. Et c'est comme dans Surat Ar-Rum, où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a dans la diversité de vos couleurs de peau et dans la diversité de vos langues, ce que vous parlez, des signes, donc des signes d'Allah. Donc c'est vraiment magnifique comment le Qur'an unit en fait toute cette diversité autour des enfants de Adam alayhi salam, de papa Adam alayhi salam. Et donc dans ce hadith, Rasulullah dit donc Moussa ibn Imran alayhi salam rajulun Adam, donc tu sais qu'ici Adam veut dire sa couleur qui est noire, Poual, donc très grand, donc il dit que Moussa alayhi salam était grand, robuste, élancé, et il dit Jad, donc Jad ça veut dire qu'il avait les cheveux crépus, ka'annahu mirrijali shanu'a, donc comme s'il était un homme parmi la tribu de Shanu'a, et c'était une tribu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était connue pour leur couleur très foncée de peau. Ensuite, donc il parle en fait de, je reviens sur le contexte, il parle de cet homme, donc de son parti, de sa Shia, donc qui est co-religionnaire à lui, de son peuple, de Banu Israël. Il dit « fastarathahu ». Donc c'est traduit ici par « cette personne a appelé au secours, a appelé Moussa au secours contre l'autre ». C'est comme s'il disait, vraiment si tu imagines la scène, Moussa arrive dans une rue, il trouve deux hommes qui se battent, et parmi un des hommes, il y en a un qui appelle Moussa au loin. Il voit Moussa arriver, il comprend tout de suite. En regardant Moussa, en fait, il comprend tout de suite en fait qu'on est du même peuple, toi et moi. Et donc, tout de suite, il appelle Moussa, il lui demande à l'aide, d'accord ? Hey, tu peux m'aider, hey, toi là-bas et tout, viens, aide-moi. Il faut imaginer ça vraiment. Et le verbe qu'Allah emploie pour dire qu'il l'a appelé à l'aide est assez fascinant, assez intéressant, d'accord ? Il dit « fastarathahu ». « Istaratha », ça vient de la racine « ra-yatha » et « raïs ». Ça veut dire aussi pluie, al-raïs. Et al-raïs, parce qu'il y a un autre mot pour dire la pluie, al-matar, comme tu connais. Al-matar veut dire la pluie. Quand Allah emploie un autre verbe, un autre mot pour dire un mot qui pourrait ressembler, c'est qu'il y a une nuance. Quand on parle de raïs, on ne parle pas de n'importe quelle pluie, on parle d'une pluie qui arrive après une période de sécheresse, d'accord ? Si cette pluie, en gros, elle n'arrive pas à temps, eh ben, le cas, il est critique. Vous imaginez un agriculteur qui attend cette pluie. Cette pluie qu'il attend, quand elle arrive, on l'appelle Al-Raïs. Parce que sinon, ses récoltes vont être abîmées, etc. Et, tout. Et donc, Istaratha, ça veut dire le fait aussi, le fait de demander à être arrosé, à être abreuvé. Bon, on est d'accord que cet homme-là, il n'est pas en train de dire à Moussa alayhi salam, aide-moi à boire, arrose-moi de pluie. On est d'accord que ce n'est pas ça. Donc, dans le sens littéral, Istaratha, comme cet homme a fait, c'est le fait de demander de l'aide à un moment critique. Et qu'en gros, c'est une question de vie ou de mort. Si tu ne m'aides pas, c'est fini pour moi. Donc déjà, l'appel à l'aide que Moussa alayhi salam reçoit réveille en lui ce besoin justement de sauver. D'accord ? Donc cet homme, il est intelligent. Il voit Moussa, il ne l'a jamais vu. Enfin, il croise cet homme, il ne sait pas que c'est Moussa hein, alayhi salam. Donc il voit, il tout de suite, il appelle. Ah, viens m'aider, tu vois. C'est exactement ce qui se passe. Et Moussa alayhi salam, donc, de son côté, il faut se mettre donc, la caméra. On a la vue de Moussa alayhi salam. Tantôt, on a la vue de cet homme de Banu Israël quand il l'appelle. Et tantôt, on a la vue de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il arrive, lui, il demande qu'à aider. Il est là justement pour vérifier l'état de son peuple. Et là, il trouve cette scène-là. Et cet homme l'appelle à l'aide. Et il a l'air, voilà, la personne qui a tendance à appeler à l'aide comme ça, même si on ne sait pas trop ce qui se passe, on a tendance à vouloir la défendre. Et l'autre, bah, il parle pas trop, il se plaint, enfin, il continue de se battre. Et donc, Moussa, alayhi salam, il s'est dit que c'était une situation habituelle. C'est comme d'habitude, encore un copte égyptien qui brutalise, tyrannise, martyrise encore des gens de mon peuple, etc. C'est toujours la même scène, en fait. On a tellement l'habitude de voir ça. C'est une scène typique, en fait. Donc, qu'est-ce qu'Allah dit ? Il dit que « fawakazahu Moussa ». Donc, Moussa lui a asséné un coup. « Wakaza », c'est le fait de repousser quelqu'un à coup de poing et en visant la poitrine, d'accord ? Donc, c'est pas n'importe quel coup de poing, c'est un coup de poing qui met KO. Et d'ailleurs, il répète, et ça veut dire aussi percer. Donc, ça veut dire vraiment, c'est pas juste une tape, en fait. C'est vraiment le coup de poing très fort. Et après, il dit « faqada alay ». Qada, c'est le fait de juger, de trancher, etc. Donc, c'est comme si, ici, c'est traduit par « l'achever ». Mais si tu veux vraiment le sens littéral, c'est comme s'il disait, il a classé le dossier de cet homme. Il n'était plus de ce monde, c'est fini. Il lui a rangé son dossier, en fait. Donc ça veut dire vraiment, c'est achevé, achevé. Et Moussa, alayhi salam, bien entendu, comme tu l'imagines bien, il n'avait pas la volonté de tuer cet homme. Il voulait juste l'écarter, il voulait le repousser. Voilà, il a vraiment poussé, c'était un coup de poing pour le pousser, en fait. C'était pas pour le tuer, se battre ou quoi que ce soit. Il était en train de défendre l'autre. Et là, tout de suite, ce que Moussa alayhi salam fait, et il faut imaginer que pendant ce temps, l'autre, il a pris la fuite. Hein. Il était tellement choqué. Imagine, t'appelles quelqu'un à l'aide, etc. Et la personne vient, et toi, tu ne dis pas de tuer, tu dis juste aide-moi. Et la personne vient, elle, pour t'aider, elle tue la personne avec qui tu t'es disputé. Est-ce que tu restes debout ici ? T'as peur déjà que tu sois mêlé à tout ça, donc en fait, tu te dis mince, mais il l'a tué. Mais qui lui a dit de le tuer ? Et oui, il est parti. Et Moussa, alayhi salam, il se retrouve devant cette situation. Alors, mettons-nous à sa place aussi. C'est une situation hyper difficile. C'est éprouvant. Là, on a beaucoup de peine pour Moussa, alayhi salam. Bah, nous, on est de son côté, hein, donc forcément, c'est notre héros de l'histoire. Donc, on va vers lui. Et en plus, on sait que c'est un prophète, un homme pieux. Donc, Moussa, alayhi salam, il est meurtri, en fait. Il se dit, mais c'est pas du tout ce qu'il espérait. Donc là, tout de suite, ce qu'il dit, c'est هذا من عمل الشيطان. Il dit que ça, c'est une œuvre de Shaitan. Innahu, il dit adoun mudrilun mubin. D'accord. Donc il décrit vraiment Iblis, Shaitan, comme étant un ennemi en fait. Il est un adou. Ça suffisait déjà de dire ça. Il est un ennemi. Mudrilun, il égare. C'est un égareur mubin. C'est évident. C'est vraiment son œuvre. Mais regarde quand même comment il parle. Pourquoi il parle de. Il dit que c'est parmi les choses que Shaitan fait. Il dit pas c'est Shaitan qui a fait ça. Innahu min amali Shaitan. Ça fait partie des choses. En gros, ça ressemble à la signature de Shaitan. Il s'en veut en fait parce qu'il dit il aurait dû. Il n'est pas fier en fait d'avoir tué quelqu'un qu'il estimait être tyrannique en fait. Il aurait pu en fait se dire être fier de se dire bah j'ai tué quelqu'un qui faisait du mal en toute façon. Non. Il s'en veut parce qu'il se dit il sait déjà qu'il y aura des conséquences à ça. Il a compris, en fait, que c'était grave ce qui venait se passer. Si ça venait à se savoir, ça va être très compliqué pour lui. Il se dit aussi, j'aurais dû juste le retenir, en fait. Avec ma force, je pouvais le retenir, pas le taper, pas le pousser. J'aurais juste pu le retenir de se battre avec l'autre, en fait. J'aurais dû demander des comptes, j'aurais dû essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, en fait. Vous vous disputez pourquoi ? Vous vous battez pourquoi ? Mais en fait, Moussa alayhi salam n'a même pas discuté. Il est parti lui asséner un coup. Il a estimé que cet homme-là était forcément fautif. Et Moussa alayhi salam ne s'est pas amendé de son geste. Il n'a pas dit « Non, c'est Shaitan, c'est pas moi. » Il est passé à autre chose. Non. Il a demandé pardon à Allah, comme son ancêtre, papa Adam alayhi salam, l'avait fait quand il a mangé de cet arbre qu'Allah lui avait défendu de faire. La première chose qu'il a fait, c'est de demander pardon, de reconnaître. Et d'ailleurs, ça nous amène à la ayah suivante, où il emploie la même tournure que son papa Adam auparavant. Il dit « Je me suis fait du tort à moi-même. » Rabbi, c'est très important les mots ici. D'ailleurs, d'abord, il se tourne vers Allah, le seul qui peut quelque chose dans son cas, Rabbi. Ensuite, il admet l'injustice qu'il a commis vis-à-vis de lui-même. Il parle de. Il nous apprend en fait que quand on fait du mal comme ça, on se fait de l'injustice d'abord à soi-même, avant même de le faire aux autres en réalité. Parce qu'on va rendre des comptes en fait. Donc on fait du mal, en fait, on commence par soi, en se faisant du mal et en faisant du mal aux autres. Donc d'abord, Rabbi. Ensuite, il admet. Zalam tu nafsi, j'ai été injuste envers moi-même. Puis ensuite, il demande pardon. Farfilli. Et Allah lui a pardonné. Et c'est quelque chose c'est un sentiment en fait de lui avoir pardonné qu'il a déposé dans son cœur comme justement avoir été pardonné. C'est quelque chose qu'Allah a donné à ses prophètes en fait. Parce qu'on pourrait se dire, mais Allah lui a pardonné. comment on sait qu'Allah lui a pardonné? Comment lui, il sait qu'Allah lui a pardonné? C'est quelque chose qu'Allah a placé dans son cœur, comme une sorte de révélation, une sakina en fait, qui lui laisse penser que oui, tu as été pardonné. Et note que ce passage d'aujourd'hui, eh bien, c'est la première fois dans la sourate que Moussa alayhi salam s'exprime. Et ici, dans cette ayah, c'est la première fois qu'il s'adresse à Allah. Et comme tu te rappelles, Moussa alayhi salam est de la religion de Banu Israël, qui étaient les musulmans de l'époque. Donc il croit en Allah, il connaît Allah comme étant Rabbul Alamin, mais il ne sait pas encore qu'il est prophète. La ayah 17, qui va être notre dernière ayah d'aujourd'hui, il dit « Rabbi, bima an'amta, alayya falan akuna zahira lil mujrimin. » Donc il dit, il prend un serment ici, il dit « Rabbi, grâce au bienfait dont tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels. » La réponse de Moussa alayhi salam montre qu'Allah lui a effectivement pardonné. Et il parle de ce pardon comme faisant partie des nombreux bienfaits qu'Allah lui a donnés. Il promet de ne plus défendre les criminels. Ici, c'est très important, cette ayah-là, parce qu'ici, quand il parle de criminels, il ne parle clairement pas du copte égyptien, vu qu'en fait, il dit qu'il ne défend pas. Et lui, il ne l'a pas défendu, il l'a tué. Donc, c'est l'autre qu'il défendait. Donc, indirectement, on voit que Moussa alayhi salam assimile cet homme de Banu Israël qui est censé être de son peuple, donc de sa religion, de son côté, son partisan. Il assimile cet homme-là à un criminel, sans dire vraiment qu'il était un criminel. Et en plus, il a pris la fuite après, hein, après l'incident. Donc indirectement, Moussa alayhi salam nous apprend une grande leçon ici. Il parle du danger de stéréotyper. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un copte, c'est ce qu'il est en train de se dire, qu'il est mauvais, par définition. Ce n'est pas parce que quelqu'un est de Banu Israël, donc de son peuple, de sa religion, qu'il est innocent. Moussa alayhi salam s'en est vraiment beaucoup voulu de s'être fait avoir par cet homme-là, qui l'a appelé à l'aide. Il associe ici le fait de stéréotyper sans preuve et de trancher sans investiguer comme un crime. Et ceux qui font cela, pour lui, ce sont des criminels. On a une belle leçon de vie avec Al-Qasas aujourd'hui. Et c'est où est-ce qu'on en est de ce phénomène dans notre société, le fait de stéréotyper. Et parmi les musulmans même, enfin, même pas la peine d'aller loin. Le fait même de dire d'un peuple quelque chose quand on voit un des gens de ce peuple faire quelque chose est gravissime. Ah oui, mais c'est un Égyptien, hein. Tous les Égyptiens sont comme ça. Ah, ça m'étonne pas, tous les Maliens font comme si. C'est un Algérien, c'est les Algériens, ça c'est typique. Ah, mais c'est un Portugais, hein. Tu t'attendais à quoi? Tu vois ce genre de phrase? Et tu remarqueras que par respect, je ne mentionne pas les stéréotypes de ces cultures-là que je viens de citer. Je ne vais pas te dire c'est un Égyptien, donc il fait ça. C'est typique. Je ne me prends même pas la peine de mentionner ça. Exprès, en fait, par respect, et aussi parce que je viens de citer quand même une ayah qui parle de ça, et parce que c'est du n'importe quoi. Et je viens de t'expliquer une ayah qui nous enjoint à cesser ces bêtises de stéréotypes. Qu'Allah nous guide. On devrait tous faire comme Moussa alayhi salam et se répéter régulièrement comme lui l'a dit. Donc les phrases des prophètes sont très importantes à intégrer et à garder. Falan akuna dhahira lil mujrimin. Rabbi falan akuna dhahira lil mujrimin. C'est très important. Donc jamais je ne soutiendrai les criminels. Donc je ne serai pas. Zahiran, c'est vraiment défendre en fait. Zahiran, ça vient de zahar, qui signifie dos. En gros, je vais pas défendre les gens. Je vais pas servir de bouclier. Je vais pas servir de défenseur. Je ne vais pas porter sur mon dos les criminels. Et ici, il associe le crime. Le crime, il y en a plusieurs formes. Dans tout le Coran, Allah va définir le crime comme étant, voilà, il y aura une chose et il va définir ça comme un crime. Il y a plusieurs choses qui sont un crime dans la vie. Dans cette ayah-là, Moussa alayhi salam nous apprend, à travers lui on apprend que stéréotyper peut être assimilé à un crime. C'est très fort, hein. Et combien sommes-nous à faire ça, sans s'en rendre compte, parce qu'on a l'habitude. Peut-être que ce Ramadan sera meilleur que les autres, parce qu'en fait à partir d'aujourd'hui on va arrêter de faire ça. On va prendre chaque cas comme il est, et arrêter de dire « Oh, c'est quelqu'un d'un peuple, comme si c'est quelqu'un de ce peuple-là ». Bla bla bla. Les preuves de Moussa alayhi salam aujourd'hui nous montrent à quel point c'est grave de faire ça. Alors qu'est-ce qui va se passer après ça? Parce que t'imagines bien qu'il va y avoir des conséquences. Que va-t-il advenir de Moussa alayhi salam? Est-ce qu'on va revoir encore cet homme-là qui l'a appelé à l'aide? Eh bien ça, ce sera pour l'épisode de demain, Inch'Allah. Je te dis assalamu alaikum.